Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Le grand oral des grandes gueules.
Laurent Ruquier, finement con, aux éditions Flammarion. Bonjour mon cher Laurent.
Bonjour, bonjour.
Merci Laurent, il a fêté les 100 ans de la radio samedi soir dernier. Il ne nous a pas invités, on aurait pu être vexés. Et finalement, heureusement qu'on n'a pas été invités.
C'était pour vous sauver, vous et Apolline de Malherbe.
C'est gentil, merci Laurent. Quelle histoire.
Que je reçois samedi prochain Apolline de Malherbe.
Quelle histoire.
Oh, quelle histoire.
Alors, vous vous rappelez, il y a un des invités qui a eu le Covid. Donc
on en fait beaucoup pour pas grand-chose. Voilà. Ça arrive. On peut tous être cas contact d'un cas contact. C'est comme ça. La contamination n'a pas eu lieu sur le plateau. C'est quelqu'un qui est venu. On sait qui. Bon, on va pas rappeler parce que, après tout, moi, je considère toujours que ça fait partie du secret médical. Faut pas oublier ça, quand même. Mais c'est quelqu'un qui est venu et qui était déjà avec le Covid, mais qui ne le savait pas, le pauvre. On peut pas toujours savoir quand on est asymptomatique à ce moment-là, en tout cas. Donc voilà, ça arrive et ça arrivera encore. Et tout le monde va bien. C'est ça qui compte. Et ça prouve d'ailleurs ce qui se passe depuis lundi. C'est un peu ce que je résume dans mon livre, ça prouve l'hystérie médiatique qu'il y a autour d'un truc qui au fond est assez banal. Il n'y a personne à l'hôpital, tout le monde est en pleine forme. On ne sait même pas d'ailleurs s'il y a eu une seule contamination sur le plateau pour l'instant. On le saura je crois vendredi parce qu'il y aura un dernier test qui sera fait auprès de tout le monde. Mais enfin, en tout cas, on appelle tout le monde tous les jours et tout le monde va bien.
Mais je vous écoute, je vous entends et depuis le début vous en avez un peu marre de... Enfin maintenant ça fait longtemps parce qu'on savait plus de 14 mois qu'on vit avec cette chape de plomb. Oui. Mais qu'est-ce qui vous énerve? Parce que le Covid a tué quand même 100 000 personnes, des gens malades, il y a des soignants.
Vous voyez, par exemple, ça m'énerve aussi. Alors, il a tué 100 000 personnes, mais il faudrait rappeler à chaque fois. En fait, ce qui m'énerve, c'est qu'on ne contextualise pas l'information. Par exemple, 100 000 personnes, on va les additionner jusqu'à quand, les morts du Covid? Parce que, au départ, c'était sur une année, maintenant, ça fait plus d'un an. Alors, ça veut dire que si on considère que ça peut durer encore des années, on va les additionner comme ça, d'année en année. Tout ça, ça veut rien dire, les chiffres. C'est beaucoup. Mais c'est 0,16% de Français qui sont morts du Covid. Voilà, il faut rappeler à chaque fois les choses. C'est ça que je reproche. Je reproche que les journalistes en général balancent des chiffres sans les contextualiser. C'est vrai pour l'Inde, c'est vrai pour le Brésil, c'était vrai à un moment donné pour la Suède. Voilà, c'est ça que on envoie des pourcentages. L'autre jour, j'étais sur le plateau de Quotidien. Ça m'a bien amusé parce qu'à un moment donné, on parlait des jeunes morts du Covid, puisque moi, je fais partie de ces gens qui reprochent à Olivier Véran. Et ça, vraiment, c'est peut-être la pire des choses que je puisse reprocher au ministre de la Santé, c'est d'avoir à un moment donné, je crois que c'était au mois de juin, pris en exemple un jeune homme de 28 ans oui. pour faire taire l'opposition, pris en exemple un jeune homme de 28 ans qui, hélas, était en train de mourir. Évidemment, je remets pas en question ça, c'est terrible, c'est grave, dramatique. Et c'est sûrement vrai, bien sûr, parce qu'il y a eu des jeunes qui sont morts. Mais il y a eu combien de jeunes qui sont morts du Covid? Cet exemple-là, c'était honteux de s'en servir pour faire taire l'opposition. Parce que je crois qu'il y a eu 3000 Français qui sont morts, 3000 de moins de 50 ans qui sont morts du Covid. 3000 Français de moins de 50 ans. Il suffit de lire Marianne, c'était dans le tableau il y a 3 semaines. 3000 Français de moins de 50 ans qui sont morts du Covid en un an. Vous vous rendez compte un peu? Et on se sert d'exemple d'un jeune homme de 28 ans qui certainement avait hélas une comorbidité ou on ne sait quoi. Mais c'est ça que je reproche au ministère de la Santé. C'est ça que je reproche à M. Véran et à M. Delfraissy. C'est d'avoir voulu faire peur à l'ensemble de la population.
Mais peut-être qu'on avait besoin de faire peur à cette population
pour faire respecter
les consignes.
Pour faire respecter des consignes ou les plus strictes qui soient, tout pays confondu. La France est le pays qui a, nous a contraint le plus par rapport à tous les autres pays européens.
Le couvre-feu, là, toujours.
C'est insensé. Voilà ce que je reproche, en gros. Mais je ne nie pas les 100 000 morts, je ne nie pas qu'on a un risque tous ici, autant qu'on est, de mourir. Mais on va dire que le risque est moindre pour nous, enfin, moi un peu plus, j'ai plus de 50 ans. Mais quand même, moi je suis doublement vacciné. Je suis pas du tout complotiste, je suis pour le vaccin, je pense qu'il faut qu'on se fasse vacciner et plus, surtout parce que j'ai envie qu'on soit tranquille et qu'on en a marre. Mais voilà, donc moi, dès que ça a été possible, quand ils ont ouvert au plus de 55, puisque moi j'en ai 58 maintenant, ben voilà, je suis allé me faire vacciner Pfizer.
Et vous, l'homme de télé, de théâtre, de culture, cette distinction qui a été faite assez rapidement entre les activités essentielles et non essentielles.
Alors là, on parle même pas de ça. Mais tout m'énerve. Comment, à un moment donné, on a pu fermer des bistrots dans des départements où il y avait même pas un cas de Covid, pendant que dans la région parisienne, on allait tous s'accumuler et s'agglutiner avec un caddie dans les supermarchés. Enfin, en fait, ce qui m'a énervé depuis un an, et c'est ce que j'essaie de traduire dans le livre, ce sont les incohérences. C'est ça qui m'énerve. Parce que moi, je ne nie pas la maladie, je ne nie pas la pandémie. Ce sont les incohérences que je ne supporte pas, comme par exemple, ça vous avez dû en parler ici aussi, mais c'est à mourir de rire. On ouvre les parcs d'attractions, mais en revanche, on n'ouvre pas les manèges. Non, mais écoutez, dans quel pays vit-on ? Voilà.
Olivier Véran, qui avait montré son épaule pour prouver l'efficacité du vaccin, vient de dire non à une proposition publicitaire pour préparation H.
Et lui, ça, c'est ma cible préférée.
Oui, c'est Véran.
Parce que, voilà, je vous dis, ce jour-là, à l'Assemblée, j'ai découvert un manipulateur. Pour moi, ça s'appelle de la manipulation. Quand on prend quelqu'un de, même un mensonge, quand on prend quelqu'un de 28 ans, même s'il a existé, ce jeune homme, ça n'était pas représentatif des victimes du Covid. Et ça n'était pas bien de faire peur aux Français comme ça.
Mourad Boudjelal, Marianne Soubré, Maxime Nido.
Dans le bouquin.
Oui, bien sûr, j'ai apprécié votre bouquin. Alors, ce qui me fait du bien, c'est qu'on vit dans un état, dans un pays moraliste depuis quelques années qui me fait peur, parce que le second degré n'existe plus dans ce pays. Alors, je voulais faire revenir à un grand humoriste, et vous ne me contrarierez pas, sûrement le plus grand, qui s'appelle Coluche.
Ouais.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, un garçon comme Coluche pourrait dire une expression, et je m'excuse de ceux que ça va choquer, parce que ça va choquer des gens, quand Coluche disait, il y a une trentaine d'années, Dieu a inventé l'alcool pour que même les moches se fassent baiser. Et qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui si quelqu'un sortait cette phrase?
Je pense qu'il pourrait encore le dire parce que il serait encore Coluche. En fait, on ne prête qu'aux riches, comme on dit toujours dans ces cas-là. C'est l'avantage, c'est d'ailleurs par exemple la force, peut-être chez vous ici aussi, mais des grosses têtes, même si de temps en temps il y a un rapport par-ci par-là qui sort pour nous emmerder, mais il n'empêche que on a gardé, d'ailleurs ce livre le prouve, puisqu'il y a pas mal de phrases qui sont extraites de la première demi-heure de l'émission. On a gardé quand même notre liberté d'expression parce que l'émission existe depuis très longtemps et que effectivement
je suis sûr que vous censurez des fois intérieurement
pas plus que ça parce que il faut quand même reconnaître aussi pour être honnête qu'il y a des sujets sur lesquels c'est pas plus mal qu'on ait évolué et que l'humour ait évolué. Franchement, on est tous d'accord pour dire que au fond et moi j'ai jamais rien eu contre Michel Leeb, il faut recontextualiser les choses, mais que aujourd'hui le sketch de Michel Leeb, il nous ferait sûrement moins rire qu'il nous a fait rire dans les années 70. On est d'accord avec ça, l'humour a évolué, on a appris.
Une maison à La Réunion parce qu'il y a moins de noirs qu'à Paris.
Ça oui, ça c'était drôle, mais par exemple je pense que Hergé aujourd'hui n'écrirait pas ou ne dessinerait pas Tintin au Congo comme vous qui êtes spécialiste de la BD, vous le savez. Donc franchement non, je trouve ça normal que l'humour évolue et que on ait des limites aujourd'hui qu'on n'avait pas parce que heureusement on a progressé, mais voilà, il faut pas passer dans l'excès inverse.
Vous dites il ne faut plus vexer les défenseurs des animaux, les religions, les femmes, les homosexuels, la droite, la gauche, la CGT, les noirs, les bretons, les belges, les cultivateurs d'asperges, les bossus, les puissants, les balkanis, la famille Vimin. Vous faites tout un panorama comme ça. Il ne nous reste plus grand chose. Vous dites parce que, en fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'on est sous surveillance à cause d'un petit oiseau bleu. C'est-à-dire, c'est les réseaux sociaux et c'est Twitter qui est devenu le nouveau censeur.
La plus belle démonstration, c'est celle-là. Et c'est la partie que je préfère, d'ailleurs, dans mon avant-propos, parce que je trouve qu'effectivement, c'est tout un paradoxe absolument hallucinant. C'est-à-dire que les humoristes, pas moi, parce que moi, j'en ai rien à foutre, mais les jeunes humoristes, en tout cas, et ceux, justement, qui se sont fait connaître à cause ou grâce aux réseaux sociaux, évidemment, ils sont encore plus dépendants. Ouais. Et leur réaction est évidemment très, très fragile par rapport à ce qu'ils peuvent lire. Et donc, eux, évidemment, pouce qui est en bas, 1000 likes qui s'en vont, va d'un seul coup faire qu'ils vont s'excuser pour une blague qu'ils ont faite. Mais c'est vrai que c'est surtout sur Twitter qu'on va les empêcher de dire ce qu'ils ont envie de dire et de faire une blague qui va ne pas plaire à un groupement, une association, un lobby, quel qu'il soit. Et c'est là-dessus que les journalistes vont s'emballer, il va y avoir un buzz et que quelqu'un va être obligé de s'excuser et puis va limiter son humour. Or, c'est pourtant sur ce même réseau social, c'est ça qui est fou, qu'effectivement on lit le plus de choses homophobes, racistes, haineuses. Oui. Donc c'est tout un paradoxe, c'est un peu comme si effectivement, c'est ça que j'essaie de démontrer, Twitter s'était arrogé le monopole de la liberté d'expression. En fait, on peut dire ce qu'on veut à une seule condition, c'est que ce soit sur Twitter. C'est quand même fou.
Sur les jeunes humoristes, vous qui aimez bien l'humour Vachard, et d'ailleurs vous le démontrez, moi j'ai bien aimé celle-là, je la lis, hein. Johnny Hallyday aurait eu 77 ans aujourd'hui. Laetitia Hallyday déposera une gerbe de fleurs devant la SACEM. Et ça, c'est Vachard. Mais moi j'aime bien. Mais cet humour un peu Vachard, est-ce que les jeunes générations peuvent l'utiliser? J'ai l'impression que quand on entend un humoriste qui effectivement s'excuse parce qu'il a fait une mauvaise blague qui a choqué tel ou tel.
Norman, c'était Norman.
Voilà, Coluche ne serait pas excusé, des proches ne se seraient pas excusés. Voilà, cette nouvelle génération, ça va être très compliqué. Est-ce que c'est pas
Alors il y en a. Moi, j'ai la chance de produire Gaspard Proust. Oui, non, donc vous imaginez que là, je suis gâté.
C'est un génie.
Il est pas sur les réseaux sociaux, Gaspard Proust.
Non, pas du tout.
Et d'ailleurs, il explique que il ne veut pas que son spectacle soit diffusé, et enregistré, justement à cause de cette liberté.
Mais oui, parce que si on extrait une phrase, évidemment, on va croire qu'il est contre la droite, contre la gauche, antisémite, anti-musulman, contre tout. Alors que si on voit l'ensemble du spectacle, on comprend bien qu'il tape sur tout le monde.
Marianne Soubré et Maxime Yedo.
Oui, alors bon, sur le livre, en fait, je pense que je suis pas le public cible, hein, mais c'est pas grave, hein, je veux dire, clairement. Alors, j'en ai trouvé quelques-unes quand même. Alors, Bruno Le Maire a annoncé hier que tous les médecins qui font le tour des plateaux télé pourront bientôt bénéficier du statut d'intermittent du spectacle.
Oui, ça, il le mérite.
Alors, voilà. Et ça me permet de relancer sur le sujet quand même qui est, à mon avis, plus important. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont beaucoup rire à votre livre, et bon, c'est pas forcément mon humour, mais, intermittent du spectacle, vous êtes vous-même auteur, directeur. Alors, je ne sais pas si vous êtes toujours directeur.
Non, je n'en suis plus directeur.
Vous avez été directeur de théâtre, etc.
Et vous
donc, j'ai eu la chance de revendre au bon moment.
Oui, j'ai revendu au bon moment.
C'est tant pis pour du monté. Voilà. Ou bien fait.
Justement, quelle est votre préoccupation en tant qu'ancien, on va dire, directeur de théâtre, etc. Est-ce qu'on a le sentiment que ça va repartir? Est-ce que, enfin, voilà.
Je suis pas très optimiste, hein, parce que là, vraiment, les jauges, c'est compliqué. Alors, les gros théâtres vont peut-être s'en tirer, mais les petits théâtres, vous imaginez, pour amortir un spectacle, ce que ça va être compliqué. Non, je pense que là, tout le monde espère pour la rentrée de septembre, mais en tout cas là, avant l'été, il va y avoir quelques spectacles courageux qui vont démarrer, mais enfin, d'accord. Je pense qu'en plus, les gens vont avoir qu'une envie, c'est d'aller à l'extérieur, de se battre. Ça va être la guerre civile aux terrasses pour obtenir une chaise et une table. Mais en revanche, aller s'enfermer dans un théâtre, j'ai bien peur que ce soit difficile. Bon, mais en tout cas, c'est courageux pour ceux qui vont commencer à le faire. Les festivals, j'espère que cet été, quand même, les festivals vont.
Bah, avec les 4 mètres carrés autour de nous, on va s'amuser.
Mais tout ça, on est, c'est Kafka, quoi. On est, quand on voit la liste des contraintes, c'est à mourir de rire, quoi. C'est, on va être là avec un mètre à mesurer. On sait bien de toute façon que la plupart de ces mesures seront moyennement appliquées. Tout ça est grotesque.
Vous respectez. Maxime Yedo. Avant la question, moi, je dois vous dire quelque chose que je n'aurai pas le temps de vous dire après cette interview, à savoir que je vous dois quand même beaucoup cette place, dans le sens où depuis que j'ai 15 ans, c'est grâce à vous sur Europe.
Ça vieillit toujours.
Hein. Oui, ça vieillit, mais c'est sincère et je n'aurai pas d'autre occasion de vous le dire. Donc c'est
gentil, merci.
C'est vraiment, enfin, l'esprit de bande qui m'a fait plonger dans l'actualité, etc. Donc je vous le dois. Et c'est d'ailleurs un peu dans le fil conducteur de tout ce qu'on s'est dit. Je me souviens, et à l'époque, même encore aux grosses têtes, de Pierre Bénichou, c'était aussi des gens qui avaient un génie. Je réécoutais certains sketchs sur le fait de se froisser la cravate pour paraître pauvre quand il allait au Burger King. C'est-à-dire qu'il y avait, non, mais il y avait un talent, il y avait une gouaille, etc. Est-ce que.
Mais qu'est-ce qui serait malheureux, Pierre Bénichou?
Il était d'ailleurs, je crois, un peu des dernières années. Mais est-ce que c'est pas aussi, en fait, un des problèmes de l'humour en France? C'est que si on essaie d'être un peu objectif, à part Gaspard Proust qui sort quand même du lot, est-ce qu'aujourd'hui on ne peut plus rien dire? C'est surtout aujourd'hui, il y a pas beaucoup de gens qui ont autant de talent que ces gens-là qui n'existent plus.
Et on a quand même, il y a Blanche Gardin dans son genre, oui. Sur scène, il y a Proust, alors De Dienne, Vincent, que je produis aussi, et dans un autre genre, moins polémique, effectivement. Mais c'est vrai que l'actualité.
C'est toujours les mêmes, voyez, on cite Proust, Gardin, De Dienne, et après.
Des gens d'ailleurs qui ne viennent pas à la télé, c'est très intéressant.
Qui l'ont
quitté. Parce qu'en fait, ils ont un peu tout à perdre maintenant d'aller à la télé.
J'ai aussi la chance d'avoir quelqu'un qui va assez loin dans l'émission du samedi soir. C'est Philippe Cavrivière. Il est assez fort, je trouve, Philippe. Il franchit.
Il n'a pas encore eu des problèmes.
Pour l'instant, non.
Il
franchit des limites, en tout cas, qui sont rarement franchies à la télévision.
Mais parce qu'on a l'impression aussi que il y a que les femmes qui peuvent rire des femmes. Maintenant, il y a que les Arabes qui peuvent rire des Arabes. En fait, c'est devenu aussi. Enfin, je veux dire, ceux qui osent, ils vont oser sur leur communauté, on va dire.
L'homme blanc peut-il rire de tout encore aujourd'hui?
Ah, ça c'est compliqué, mais c'est vrai.
Avec talent.
Qu'après tout, c'est légitime de s'interroger sur qui fait rire à propos de quoi. Ça, moi, j'ai donné l'exemple il y a pas longtemps dans une interview de Élie et Dieudonné, puisqu'ils ont fait duo pendant longtemps ensemble. C'est vrai qu'aujourd'hui. Si vous preniez une même blague dite par Elie Semoun à propos, admettons, des camps de concentration, bah Elie pourrait la faire, et d'ailleurs il l'a fait sur scène, puisque son spectacle va assez loin, Elie Semoun. Mais voilà, on ne le soupçonne pas de quoi que ce soit derrière sa blague. Tandis que si vous mettez exactement la même phrase avec les mêmes mots dans la bouche de Dieudonné, pour le coup, là évidemment on va être plus circonspect et légitimement, je pense. Donc ça compte quand même de savoir qui parle. C'est ça en fait la question. C'est un peu comme quand on nous reproche à Christophe Beaugrand, Stevie, je vais pas faire de l'outing, mais
non, là c'est
quoi,
pas la peine,
Stevie, Beaugrand, Stevie ou moi ou Jean-Philippe Janssen,
de là, faire des bombes comme ça,
d'être homophobe, là c'est grotesque. Voilà, comment on pourrait être homophobe, c'est grotesque.
En fait, oui, mais on en revient à ce que vous dites, à ces communautés qui sont très agissantes et qui regardent qui parle et pourquoi il dit ça, et même si on est homo, même si on est blanc, même si on ne l'est pas, on dit ça. On peut considérer que la blague est sortie du contexte, qu'elle n'est pas bonne, mais pas être accusé à ce moment-là ou se retrouver en position d'accusé.
On peut
faire une mauvaise blague, pas drôle, sans pour autant chercher derrière une arrière-pensée, une mauvaise intention.
Mais ça, c'est le problème du réseau social et du buzz. C'est pas tant le problème de Twitter, hein. Pardon, je vais mettre un peu les journalistes, et je sais que vous en êtes, en cause, mais c'est le problème de la presse écrite qui se vend moins, et donc aussi du clic et de la recherche du buzz que la plupart des journaux. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a une différence entre leparisien.fr et le Parisien Presse,
comme le Figaro,
Télé 7 Jours et les autres journaux. On voit bien que chacun cherche dès qu'il y a le moindre truc, sans même vérifier, à prendre la petite phrase pour cliquer du clic. Donc le problème, il est là. Il n'est pas ailleurs.
Le problème, c'est aussi, et d'ailleurs, c'est ce qui est écrit sur la couverture, je ne pense pas tout ce que je ris. C'est-à-dire que une vanne, c'est pas forcément derrière une conviction précise. Non, c'est simplement pour le plaisir de faire un bon mot et de faire rire.
Exactement. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans la plupart des écoles. Il n'y a pas que du harcèlement. Il y a quand même aussi des gosses qui, entre eux, se vannent uniquement pour se faire rire les uns et les autres, et qui s'aiment pour quand même tout autant. Vous voyez, il n'y a pas forcément de haine derrière une vanne.
Mourad Boudjelal.
Moi, j'ai deux questions. La première, comme ça, faut que la première, c'est, vous dites, Vinny, qui m'amuse beaucoup, c'est nouveau geste barrière préconisé par l'OMS. Quand un expert venu d'on ne sait où débarque sur un plateau télé, éteignez d'urgence votre télévision pour éviter d'être contaminé à l'anxiété.
Mais c'est ça.
Est-ce que vous pensez donc effectivement que les médecins ont une part importante,
mais terrible, dans l'anxiété? Encore aujourd'hui, j'ai vu encore. Peut-être vous en avez parlé, les épidémiologistes. C'est un mot difficile à dire. Épidémiologistes sur les chaînes télé. J'en ai encore vu une hier qu'on voit régulièrement dire ah mais non, il faut surtout.
Ils sont dans leur rôle.
Voilà. Karine Lacombe. Voilà. Non, pas Karine Lacombe. L'autre encore. C'est les mêmes.
Catherine Hill.
Ils voudraient quoi, ces gens-là? Elles voudraient quoi? Que pendant encore des années, on vive comme on vit en ce moment. Mais c'est insensé.
Et qu'elles continuent à passer à la télé.
Mais c'est insensé, quoi. Alors, ce n'est pas nier le Covid et la pandémie que de dire quand même, il faut continuer à vivre en essayant qu'il y ait le moins de morts possible, bien sûr, mais laisser les autres vivre.
Vous faites partie, on va dire, de la France privilégiée. Hein. Enfin, je veux dire, comme nous tous, d'ailleurs.
Ah, mais quand je râle, c'est pas pour moi.
Oui, je sais.
Moi, tout va bien.
Je sais bien. Mais la France privilégiée, est-ce qu'elle a fait des restos clandestins, alors? Dites-nous.
Mais pareil, je m'en fous, en fait.
Mais vous, est-ce que vous y êtes
allé? Moi, pas du tout. D'abord, je travaille trop, j'ai pas le temps d'aller au restaurant le midi, et puis le soir, non, je suis jamais allé dans un restaurant clandestin, mais je dirais que si j'étais allé dans un restaurant clandestin, j'assumerais, puis je dirais, bah oui, et je vous emmerde. Parce que, pareil, l'affaire Chalençon, ça m'a pas choqué. Moi, je m'en fous que Chalençon fasse ce qui me choque, c'est que les restaurants soient fermés depuis octobre dernier. C'est ça qui est choquant. C'est pas que de temps en temps, il y ait trois personnes qu'on va montrer du doigt. En fait, ça aussi, ça me fait peur. Depuis un an, c'est la dénonciation qui fait peur. C'est les gens qui se montrent les uns. Ça a commencé très vite. Souvenez-vous, au début du premier confinement, il y a mon voisin, il est parti faire un jogging après 19h. Ah, il y a un tel, il a ouvert
alors
son restaurant.
Il courait jamais.
C'est ça qui fout la trouille quand même. Il est temps qu'on sorte de cette ambiance. Merde alors.
On avait même dénoncé une infirmière qui pouvait contaminer tout l'immeuble. On lui avait demandé de déménager.
Mais ça, c'est quand même à cause, quand même, de cette anxiété, cette dictature de la peur qu'on a voulu quand même.
Oui, mais ça dit quelque chose de nous Français, puisque finalement les Français, les Gaulois réfractaires qui râlent tout le temps, finalement on a accepté toutes ces règles, on les respecte.
J'ai trouvé effectivement le pays très souple, très docile pendant toute cette période. Voilà pourquoi moi j'essaie un peu de réveiller les gens.
Le personnel politique vous fait rire, Jean Castex par exemple, je lisais quelque part,
je pense que
c'est un proche d'Edouard Philippe qui dit c'est entre Jean Gabin et Louis de Funès.
Ah oui, il y a ça, oui, effectivement. C'est, mais je crois que c'est Jean-Luc Mélenchon qui dit c'est le garde champêtre, mais c'est pas loin d'être ça. Avis à la population, demain, vous n'aurez pas le droit de sortir après 19 ans. Il y a un côté comme ça. Il paraît d'ailleurs qu'il est allé, c'est ce que je raconte dans le bouquin, visiter une maison de retraite, mais ils l'ont pas laissé ressortir parce qu'ils pensaient que c'était un pensionnaire.
Qu'est-ce qui va se passer en 2022?
Ah, alors là, ça, c'est, si je le savais, je vous répondrais, mais.
Vous avez un avis?
C'est toute la question. Moi, je sais pas pourquoi. J'ai tellement envie, alors parfois, on prend ses rêves pour des réalités, mais j'ai tellement envie que ce soit deux autres qui soient au deuxième tour.
Là, ils partent de loin.
Qui est ni Macron, ni Marine Le Pen. Voilà ce dont je rêve.
Merci Laurent Ruquier d'être passé par les GG. Finement con, je ne pense pas tout ce que je ris. C'est aux éditions Flammarion.
RMC Football. Samedi 4 mai à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine le 4 mai à Montpellier avec RMC.